Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Nous allons consacrer deux coups de cœur cinéma cette semaine, avec le premier consacré au nouveau film de Jean-Pierre Améris qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes pour Marilyn et son juge, avec à l'affiche Loan Emera et Michel Blanc. En fin d'émission, nous allons parler également du nouveau film de Yolande Moreau qui sera avec nous, accompagné de Esteban et de Thomas Guy pour La fiancée du poète, qui sort également mercredi dans les salles. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine avec Thierry Binisti et Jean Sorel pour la très belle fiction Le Prochain Voyage qui sera diffusée mercredi sur France 2. Et puis on va parler de vos séries quotidiennes avec celui qui a fait une arrivée fracassante dans Ici Tout Commence, dans le rôle du chef Marc Leroy, Stéphane Blancafort. Et puis celle que vous adorez tous en Demain nous appartient, alias Mona Caron, c'est Catherine Benguigui. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. C'est parti avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré à Marilyn et son juge qui sortira donc mercredi au cinéma. C'est le nouveau film de notre ami Jean-Pierre Améris qui est là avec nous. On n'aura plus un film avec Jean-Pierre. Merci d'être là.
C'est avec plaisir, hein, à chaque fois de vous retrouver.
Alors Jean-Pierre, Marilyn et son juge, c'est l'adaptation au cinéma et bien du livre de Muriel Magellan. Je crois que c'est, déjà on va commencer par là, mais je crois que c'est une collaboration, une amitié, mais fidèle entre vous deux, hein.
En effet, Muriel Magellan a été scénariste de plusieurs de mes films, La joie de vivre, Une famille à louer avec Virginie Efira et Benoît Poulvorde, Profession du père avec aussi Benoît Poulvorde. Et là, c'est un roman d'elle, son cinquième roman que j'adapte cette fois. Et qu'elle n'a pas voulu adapter, là, en roman.
Comme elle a fait pour La page blanche l'année dernière, on l'avait reçue à cette occasion d'ailleurs.
Parce que pour une romancière, étant plus scénariste, elle sait ce qu'on inflige, entre guillemets, à un roman, quoi. C'est-à-dire, même en étant fidèle, hein, à l'œuvre, mais on passe quand même d'un média à un autre, hein, de la littérature au cinéma, c'est autre chose, quoi, hein. Donc c'est comme un rebond d'une œuvre à l'autre, et elle sait qu'il faut couper, qu'il faut enlever des choses, qu'il faut transformer. Une adaptation, c'est pas une illustration, hein, je dis toujours. Donc elle a laissé faire l'adaptation à Marion Michaud, une excellente scénariste et dialoguiste, et à moi, et elle est contente du résultat. Elle vient présenter le film avec moi parfois, donc c'est quand même bon signe. Ça fait pas comme Stephen King et Stanley Kubrick. Vous savez que Stephen King avait détesté le Shining de Kubrick.
Eh bien, tu vois, comme quoi. Alors, c'est un film qui va reposer beaucoup sur deux personnages centraux. Celui de Marilyn incarné par Louane, et puis celui du juge incarné par Michel Blanc. Alors, pourquoi tous les deux déjà? Qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas, dans ces deux acteurs pour incarner ces personnages? Est-ce que tu les voyais, toi, déjà, en adaptant? Est-ce que tu pensais à eux?
En adaptant, c'est Louane qui s'est imposée. Pour le rôle de cette jeune femme, Marilyn, qui est née, on peut le dire, hein, du mauvais côté de la barrière sociale, qui s'occupe d'un père qui est handicapé suite à un accident sur les docks, ça se passe au Havre, hein, qui cherche du boulot, qui est en galère, quoi, hein, comme beaucoup, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, mais qui a une joie en elle en même temps, hein, qui est une fille qui avance, qui trace, qui est courageuse, hein. Et pour incarner cette fille telle que je l'imaginais, un jour, en écrivant, Louane s'est imposée. Je pense parce que, en entendant des éléments de sa biographie, je me suis dit qu'elle avait des points communs avec Marilyn. Louane, on le sait, hein, c'est l'hyperactivité à l'école, le fait qu'on se moquait d'elle à cause de ça. Ensuite, c'est le deuil des parents, le père et la mère disparus en une année de temps. Et malgré tout ça, quoi, une sorte d'étoile sur la tête et une joie. J'appelle ça une joie, comme le personnage, hein, des personnages féminins que j'aime beaucoup. Virginie Efira avait déjà fait ça un peu avec moi dans Une famille à louer. Des filles qui sont en galère mais qui tracent, qui avancent. Et donc, par chance, Louane a accepté le rôle. Et franchement, je pense que pour les spectateurs qui la découvrent là, c'est à la fois confirmation de son talent, de la famille Bélier, etc. Mais aussi révélation, parce que elle s'est lâchée. Et puis le rôle est très près d'elle. Et même Michel Blanc, par exemple, l'a trouvé magnifique.
C'est vrai qu'on pourrait la définir comme une grande romantique et amoureuse de la vie, ce personnage de Marilyn. C'est ce qu'on ressent en tout cas.
Elle est très positive, elle ne juge pas, et malgré les difficultés, elle s'occupe de ce père. Mais ce qu'elle va apprendre dans le film, hein, c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, qui s'appelle, lui, « Changer le sens des rivières », hein, nous avons changé de titre. Mais ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est justement que cette jeune femme de 23 ans se pose cette question, quoi. Voilà, je suis mal parti, j'ai dû quitter l'école pour m'occuper de mon père, et j'ai pas appris grand-chose, et est-ce qu'il est encore temps d'apprendre, justement? Et c'est ce qui va être possible pour elle, grâce à cette rencontre avec ce juge, un peu âgé, misanthrope, et qui ne peut plus conduire, et qui va l'engager comme chauffeuse, et il va lui apprendre beaucoup de choses, mais elle va lui en apprendre beaucoup aussi.
Ouais, c'est un peu une rencontre de deux âmes en peine, ou solitude, je dirais solitaire, solitude, c'est ce qui définirait le mieux peut-être le personnage de Michel Blanc. On a vraiment l'impression que c'est un personnage qui est très seul.
C'est un personnage qui est très seul, ce juge, qui est vraiment dans ses certitudes, hein, de la justice, et qui, en rencontrant cette jeune femme un peu perdue dans la vie, en l'engageant comme chauffeuse, il va presque pouvoir lui transmettre des choses, et sans vouloir tout déflorer, mais elle va quand même, à son contact, se dire « mais la vie, ça peut être autre chose ». C'est vraiment le message que je voulais transmettre. On entend trop de la part de jeunes gens, parfois même des 12-13 ans, « ah bah je suis né en banlieue, du mauvais côté de la barrière, et c'est foutu, quoi. Et c'est fichu ». Je voulais vraiment transmettre ce message que non, quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'avais pas lu quand même jusqu'en cinquième. Mes parents ne lisaient pas, quoi. Il y avait pas vraiment de livres à la maison. Et qu'est-ce qui fait qu'un professeur de français en cinquième, monsieur Canard, lycée Jean Perrin à Lyon, m'a donné le goût de la lecture? Et c'était parti, là. C'était parti pour Arsène Lupin. C'était parti pour les Zola. Découvrir, oui, que lire, voir des films, peut-être même anciens, c'est du plaisir, c'est de l'enrichissement.
On va écouter la bande-annonce. Marilyn et son juge, ça sort mercredi au cinéma. On est avec Jean-Pierre Améris, aujourd'hui le réalisateur du film, qui va continuer à nous en parler. Alors surtout, ne bougez pas, on écoute et on revient juste après. À tout de suite.
C'est pas vrai, merde.
Pardon. Mais Marilyn, ça va pas du tout.
Pourquoi tu m'as pas rappelé?
Mais tu vois pas qu'on a rien en commun, là? Qu'est-ce que tu fais, là?
Embrasse-moi.
Arrête, là.
Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas.
Monsieur le Président?
C'est monsieur le juge.
Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance?
Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque.
C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça.
T'as besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
Bah, évite la bonne humeur.
Mais à quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose?
Qu'est-ce qui te fait rire?
Symbiose? C'est quoi ce mot?
Tu regarderas. Intéresse-toi, cultive-toi.
Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche.
Donc, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça.
Voilà, Marilyn et son juge, ça sort donc mercredi au cinéma. Jean-Pierre Améris, le réalisateur, est avec nous pour en parler aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre, Michel Blanc, le rôle lui va franchement à merveille aussi. On a eu l'occasion de le voir un peu bougon dans Les Petites Victoires, où il a fait un carton dans ce film aussi de Mélanie Offret. Et là, c'est un plaisir de le continuer, évidemment, à le voir dans un autre registre aussi, de ce juge un peu solitaire et qui va... Est-ce qu'il va reprendre goût à la vie? Est-ce que le personnage de Marilyn va l'aider? En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir tout au long du film. Leur rencontre va être aussi amenée par un peu la naïveté du personnage et de l'éternelle amoureuse qu'est Marilyn, en fait, hein, et des tours que ça va lui jouer, finalement, aussi.
C'est une vraie romantique, hein, un peu naïve peut-être, hein, mais elle croit les autres. C'est vrai qu'elle tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Alexandre et que joue vraiment très bien, je trouve, Victor Belmondo.
l'étoile montante du cinéma en ce moment.
Il est vraiment formidable et d'une grande humilité. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce garçon. Et dans ce rôle d'Alexandre, qui lui est également amoureux d'elle, hein, mais qui lui, voilà, est passionné de cinéma, sort tout le temps des références au dîner. Et puis, lors d'un dîner, par exemple, avec des amis à lui.
Après, on s'aperçoit très vite qu'ils n'ont pas grand chose en commun.
En tout cas, voilà. Et puis, vous savez, c'est ce qui peut arriver, quoi. Un peu honte d'elle, quoi. Hein. Elle connaît rien. On lui dit, t'es cinéphile, toi aussi. Elle dit, elle sait même pas ce que c'est, le mot cinéphile. Donc, on voulait montrer par là, quoi, que la culture, c'est un facteur d'émancipation, mais ça peut être aussi un facteur d'exclusion. Et puis, ça va créer un fossé entre eux, quoi. Parce qu'à un moment donné, il va la ghoster, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et que pour elle, ça va être en effet une blessure dont il va falloir qu'elle se remette.
Un bel hommage au réalisateur François Truffaut, vous verrez, j'en dis pas plus, mais en tout cas, on en parle beaucoup dans ce film. Est-ce qu'il y a des anecdotes de tournage à nous raconter un peu? Ou peut-être des fous rires qu'il y a eu entre les deux? Comment ça s'est passé entre les deux, cette rencontre entre Michel Blanc et Louane déjà?
Ce qui est important toujours quand je présente un acteur et une actrice qui se connaissent pas forcément, parce que finalement je fais quand même souvent des films duo, un peu des films sur la rencontre. Hein. Moi c'est ce que j'aime filmer, la rencontre, le lien des gens solitaires qui se lient. Et c'est essentiel ce moment de la présentation des deux acteurs et de la lecture, la première lecture. Et c'est vrai qu'à cette première lecture du scénario à la production, 6 mois avant le tournage, de Louane et Michel Blanc, j'ai vu tout de suite que ça accrochait entre eux. Il était touché par elle et pourtant il avait le trac. C'est ça qui est beau, hein, c'est que des acteurs comme Michel Blanc, je me souviens de Depardieu qui était mort de trouille aussi avant le tournage de L'Homme qui rit, enfin, ils ont le trac, Louane avait le trac aussi, mais finalement tout ça s'est désamorcé très facilement en lisant le scénario. Ils aimaient beaucoup les dialogues de Marion Michaud eux aussi, et j'ai vu que ça allait matcher. Après, sur le tournage, donc on peut le dire, hein, Michel Blanc est un peu comme ses personnages dans les films, hein, depuis Marche à l'ombre, Les Bronzés, enfin c'est toujours un peu le râleur hein, quand même. Hein. Et donc il a un peu tendance à râler, un peu comme dans le film, elle le rabrouait un peu en disant « Oh, ça suffit, Michel, arrête de râler » ou quoi. Notamment, je peux le dire, pour une scène avec un chien, et moi j'ai une passion pour les chiens, mais lui, en revanche, Michel Blanc les aime pas du tout.
Une scène dans une voiture ? D'accord, je vois laquelle.
Et une scène dans une Twingo en plus, hein. Bien cassée comme les personnages, mais vaillante. Hein. Cette Twingo, c'est presque un peu la coccinelle à Monte Carlo de mon enfance. Et c'était drôle même de voir Michel Blanc qui coupait sans arrêt les prises en disant « Mais non, arrête Jean-Pierre, je peux pas jouer avec un chien qui pue de la gueule, qui me souffle dans le cou. » quoi. Et donc, ça créait quand même des rires entre eux quoi, et ça désamorçait le côté râleur de Michel.
Muriel, quand elle a vu le film, la première fois, elle t'a dit quoi? Justement, parce que j'imagine le côté peut-être impressionnant que ça peut avoir et en même temps l'appréhension que ça peut avoir de découvrir en image ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu poser en tout cas dans un livre.
Bien sûr, elle n'imaginait peut-être pas les personnages comme cela, mais tout de même, elle l'a vu et elle m'a été reconnaissante de ça, que le film soit absolument fidèle quand même à son intention, à ce message encore une fois, hein, de donner quelque chose de positif aux gens, de donner de l'espoir, de dire qu'il n'y a rien de plus beau que d'apprendre à n'importe quel âge. C'est pas grave de ne pas connaître François Truffaut, mais c'est chouette si à un moment donné vous croisez un de ses films et que ça peut vous toucher, vous cueillir. Donc elle était contente que j'ai été fidèle à tout cela et j'ai gardé Le Havre qui était dans le roman, j'ai gardé tout de même beaucoup de choses qui lui ont plu, elle s'y retrouve.
Les projets télé, cinéma, qu'est-ce qui nous attend pour toi, Jean-Pierre, dans les mois qui viennent?
Un projet de téléfilm, hein, j'aime beaucoup faire des films pour la télévision aussi, comme Illettré il y a quelques années, là sur l'illettrisme. Il y a des sujets qui, me semble-t-il, se prêtent mieux à la télévision. Là, ça fait longtemps que je rêve de faire un film sur la danse en fauteuil, quoi, hein, sur la danse en fauteuil roulant, et pas de l'art-thérapie, hein, de la danse de haut niveau. Et il se trouve que dans mes recherches, j'ai croisé la route d'une danseuse née paraplégique et qui a toujours rêvé d'être danseuse. Évidemment, tout le monde lui disait, bah oublie quoi, tu seras plutôt présidente de la République à la limite, mais pas danseuse. Et elle l'est devenue. Et donc, c'est Muriel Magellan qui va écrire le scénario, mais on a très envie de raconter cette histoire-là.
Peut-être pour France Télévisions?
Pour France 2.
Mission de service public. Parfaite.
Et puis c'est important, encore une fois, j'aime les personnages têtus et j'aime les personnages qui quand même vont vers leur libération en tout cas. J'aime montrer, il y a des épreuves à traverser, mais je peux pas laisser les spectateurs et spectatrices sortir de la salle d'un de mes films avec le cafard. Quoi. C'est important pour moi que mes films donnent de l'espoir et filent la pêche.
S'il y a un film dans toute ta filmographie, ta carrière, dont t'aurais aimé une suite, dont t'aurais aimé qu'on en sache plus sur les personnages, c'est lequel? Parce qu'évidemment, on a parlé énormément avec toi des émotifs anonymes, qui a été certainement celui qui a marqué peut-être le plus ta carrière et les spectateurs. Mais est-ce qu'il y a un film où t'aurais été heureux, en tout cas, d'en raconter un peu plus?
Pour dire la vérité, pas vraiment. Pour moi, vraiment, à chaque film, c'est une histoire, et je laisse les personnages aller vers leur avenir. Mais c'est drôle que vous me posiez cette question, parce que dans un débat public, là, dans un cinéma, il y a pas si longtemps, un spectateur m'a demandé, est-ce qu'il y aurait une suite? On a envie de retrouver ces personnages, on adore cette Marilyn, on adore ce juge, mais alors il faudrait vraiment que ce soit une toute autre histoire, quoi, hein. Moi, ce qui compte, c'est de prendre les personnages dans leur enfermement, dans leurs difficultés, et de raconter comment ils vont se libérer. Et après, la fin de mes films, c'est la libération. Et c'est à eux et aux spectateurs, aux spectatrices, d'imaginer la suite.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous. On rappelle donc que Marilyn et son juge, ça sort mercredi au cinéma. On te remercie infiniment et on te dit à bientôt.
Avec plaisir, hein, comme à chaque fois.
Et on se réécoute tout de suite un petit extrait, c'est parti.
Vous avez quelqu'un en fait? Elle est hyper belle en plus, hein?
Faites-moi confiance.
Quoi?
Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille.
Vous étiez tellement en symbiose.
T'as tout pour réussir, redresse la tête, saute la barrière.
Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup.
Mais j'ai jamais dit ça.
Ah ouais.
On marque une pause, on revient dans un instant avec Thierry Benisti, Jean Sorel, Catherine Benguigui et Stéphane Blancafort. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Oh, ma jolie. Dis-moi, c'est pas bientôt fini des conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé d'entendre pas la sonnerie.
Ma jolie aime beaucoup trop les réseaux sociaux. Elle vit pour les caméras, elle est devenue accro. Elle filme son quotidien, elle fait ça comme une pro. Ça lui rapporte bien, elle en a fait son boulot. Elle ne veut plus travailler. Elle veut faire des stories, faire des photos de ses pieds et des placements produits. Ma jolie, c'est bien trop amusé. Ma jolie a bien trop abusé. Ma jolie n'est pas aussi rusée que ça. Oh, 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 ma jolie. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie. Oh, 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 ma jolie. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie. La fête est finie, il était temps. Ça n'aurait jamais dû durer autant. Je comprends que pour toi, toi soit embêtant. Mais ton comportement de net inquiétant. T'es plus influenceuse, tu n'es plus qu'une voleuse. T'es plus influenceuse, tu n'es plus qu'une voleuse, ouais. Ma jolie s'est bien trop amusée. Ma jolie a bien trop abusé. Ma jolie n'est pas aussi rusée que ça. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie. Oh, 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 ma jolie. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie. Tu as trop fait l'indécent. Soit t'as trop fait l'intéressant. Tu as trop fait l'indécent. Soit t'as trop fait l'intéressant. Oh, 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 ma jolie. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie. Oh, 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 ma jolie. Dis-moi c'est pas bientôt fini tes conneries. Oh, 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 ma jolie. C'est terminé dans ton palaçonnerie.
Ma jolie, 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 ma jolie. Ma jolie, 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 ma jolie. Ma jolie, 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 ma jolie. Ma jolie, 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 ma jolie.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Salut, c'est Nicolas Gobe. Chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Ici Tout Commence, votre série préférée, évidemment, que vous suivez tous les soirs à 18h35 sur TF1. Et un des nouveaux arrivés, et on peut dire qu'il est arrivé avec fanfare et trompette, et surtout déraillement de train, c'est notre ami Stéphane Blancafort. Bonjour.
Bonjour Alain.
Avec ce personnage de le roi, ouais. Ce chef étoilé ou pas?
étoilé, 2 étoiles, mais il les a rendues pour pouvoir faire la cuisine qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc il a enlevé la contrainte des étoiles.
C'est un personnage qui t'a tout de suite plu à incarner, ce personnage de cuisinier. C'est quelque chose qui t'a tout de suite attiré, en tout cas.
Oui, parce que déjà, tu es plus flic ou gendarme.
Ça change.
Après avoir passé quelques années à le faire entre Candice Renoir, Cassandre, Tandem. Ouais, proposer un cuistot, un chef étoilé, c'est quand même la classe, je trouve. Alors, il a ce côté rock'n'roll qui m'a beaucoup plu dans le descriptif que j'ai lu au départ. Et puis, plus on avance et plus ça se maintient qu'il est rock'n'roll. Il est doué, de toute façon, en cuisine. Il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Mais il veut le faire à sa façon. Et je trouve jolie cette liberté qu'il a. C'est intéressant.
Les fans sont super heureux de te retrouver là, parce qu'évidemment après l'arrêt de Tandem, c'était un choc pour nombre d'entre eux, parce que au bout de plus de 6 ans de Tandem avec Astrid et toi, franchement ça a été une histoire assez incroyable, et de te voir rebondir dans Ici tout commence, bah du coup les fans vont te suivre là aussi, ça va augmenter du coup l'audimat.
Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Certains regardaient déjà ITC et regardaient Tandem aussi, et ceux de Tandem débarquent sur ITC avec grande joie de découvrir cette unité univers-là de la cuisine. C'est quand même, on défend le patrimoine, un patrimoine essentiel de la France.
La bonne bouffe.
Bah ouais, quand même, on est reconnu mondialement pour ça.
T'aimes bien manger, toi, en plus.
J'aime bien manger. Il y a des choses que j'adore manger. J'ai pas d'allergie à quoi que ce soit, donc je suis plutôt bien servi. Et mais c'est vrai que du coup, les gens suivent et sont contents de me retrouver. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose, de me retrouver dans un personnage différent, quand même, quoi.
Ouais, totalement différent. Quand t'es arrivé au château la première fois, parce que alors là, vous êtes gâté quand même au niveau décor naturel là-bas sur Ici tout commence.
C'est sûr. Alors j'ai une petite anecdote moi par rapport à ça. Quand je suis arrivé sur ITC, j'ai découvert le château qu'on m'a fait visiter. Marion m'a fait visiter le château. Je découvrais totalement. Je faisais waouh, j'étais impressionné à chaque fois. Et un jour, je croise Salvatore, qui est un des technicos qui travaille avec nous sur Tandem. Il me dit alors, t'es abonné à ce château, dis donc. Je dis pourquoi non? Bah si, on y a tourné en saison 2 ou 3 un épisode de Tandem, un épisode entier quoi dans le château. Je n'avais pas reconnu le château, qui a beaucoup été transformé, qui a été embelli. Nous, il était dans son jus à l'époque. Et là, j'ai quand même halluciné. Je me suis dit, ouais, la mémoire, c'est quand même un truc qui vous trahit pas mal, hein, parfois.
Oui, mais 72 épisodes de Tandem, tu te rends compte, c'est tellement une histoire qui vous a... Oui, 85, alors tu vois, c'est encore pire. Qui vous a emmené dans des endroits tellement formidables de la côte du Languedoc, Roussillon, que du coup, tu peux en oublier de temps en temps aussi.
Ouais, mais là, quand même, moi qui suis amoureux des châteaux, hein, c'est vraiment... Mon empreinte, le château de la vieille pierre, le Moyen-Âge. Là, je me suis inquiété quand même pour mon état. Mais bon, écoute, ils l'ont très très bien transformé, ceci dit. Du coup, quand il m'a dit effectivement on y avait tourné, je me souviens, les images sont revenues, une espèce de déclic. Je me souviens de ce château qui était pas du tout dans l'état dans lequel il est maintenant. Ils ont fait un travail de restauration qui est incroyable, incroyable.
La déco, les chefs décorateurs et tout, enfin, c'est le travail qui a été fait là-bas est vraiment très très chouette. Alors, Marc Leroy, c'est vraiment, j'ai l'impression, un allié pour Tessier. En tout cas, on sent que ces deux hommes ont une histoire commune très proche, comme un peu à la vie avec Benjamin Baroche. Vous êtes amis depuis 10 ans.
Ouais, tout à fait. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on s'est rencontrés sur La Stagiaire. Ça fait quand même déjà un bon bout. Je crois que c'était le pilote ou le premier épisode de La Stagiaire, donc ça remonte. Et on s'est de suite beaucoup aimé avec Benjamin. Nos parcours sont quasi similaires, puisque c'est un homme de théâtre aussi à la base. Moi aussi, on a eu notre fille, lui sa fille Bonnie et moi Linette, quasi en même temps. J'avais déjà des enfants avant, une autre vie, mais en tout cas on a traversé un peu les mêmes choses, les mêmes castings aussi. On s'est croisé sur Candice Renoir, on s'est croisé sur Tandem aussi, c'est pareil au niveau du casting. Et le fait de se retrouver là, il y avait une espèce de logique et humaine et professionnelle. Il a beaucoup insisté en m'envoyant des textos aussi et en m'appelant pour me dire que le rôle était fait pour moi, donc il fallait pas dire non.
Ça devient un allié ou le roi devient un peu son confident sur les soucis qu'il rencontre dû à sa maladie, par exemple.
Il y a de ça, ce sont des choses que je devine aussi, que le roi devine en tout cas chez Tessier, parce que c'est, je pense, la seule personne qui le connaît vraiment profondément et qui l'aime profondément pour ce qu'il est. Et inversement, c'est le seul ami qu'il a et qu'il aura jamais, je pense.
La particularité de la série, c'est que tu tournes avec beaucoup de jeunes comédiens aussi. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez unique de donner la réplique. Est-ce qu'il y en a qui te demandent des conseils? Est-ce que voilà, vous épaulez? Il y a une véritable unité. On sait hein, souvent déjà entre les jeunes, ici tout commence, mais avec le corps professoral, qu'est-ce que ça donne?
C'est vrai qu'il y a ce côté, le fait d'être professeur, nous-mêmes, que ce soit en cuisine ou autre, en tout cas, on leur enseigne des choses. Et pas mal de jeunes, nous demandent des conseils, effectivement. Nous, en tant que vieux schnock du divertissement, on a quand même quelques techniques et un peu d'expérience, donc forcément, ils ont cette humilité-là, pour la plupart en tout cas, un bon nombre, de pas être sûr totalement d'eux encore et d'avoir quand même pas mal d'humilité, nous demander des conseils. Ouais, pas mal. Beaucoup mes fils, les deux qui jouent mes fils, Loan et Félix, ils sont friands de... Ils ont envie de travailler, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie d'avancer. Mais pas qu'à moi, hein. Ils posent des questions aussi aux autres profs, aux autres adultes, on va dire, aux autres vieux.
C'est la meilleure école, de toute façon, pour des jeunes comédiens, et pas que de cuisine, mais c'est aussi la meilleure école de comédie, finalement.
Ah bah ouais, c'est clair, et puis là, vraiment, avec le nombre qu'on est, il y a vraiment moyen de prendre des informations à droite à gauche, hein. C'est un vrai bon vivier. Je crois qu'on est 48 personnages qui tournent là, à l'heure actuelle en même temps, donc c'est énorme. Hein.
Ouais. C'est absolument dingue. Et puis l'aventure tandem n'est pas totalement finie, puisqu'on va découvrir un téléfilm final qui va mettre un point final pour le coup à cette série, à cette énorme aventure qui vous a embarqué durant cette saison. Et ça, c'était d'une un sacré défi dès le départ, parce que Tandem, pour la petite histoire, a été une des rares séries à tourner de suite avec deux équipes. Je te promets emboîter le pas d'ailleurs et mettre 12 épisodes en 3 mois et demi. Ce qui est aujourd'hui, pour mettre 12 épisodes, il faut au moins 6 mois sur une série normale pour le coup. Mais vous avez tourné hyper vite et ça a été la série qui a montré un peu justement ce chemin avec une autre façon de tourner et de produire.
Ouais, encore une fois, le monde avance beaucoup plus vite. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien. En tout cas, nous, ça nous apprend une façon de travailler qui est encore différente, où il faut être plus efficace plus vite. Donc on n'est pas là pour aussi on travaille la psychologie du personnage tout ça, mais on le fait quand même beaucoup plus vite. C'est pas moins efficace, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'on est un peu arrivé au maximum de ce qui se fait, c'est-à-dire crossboarder 4 épisodes en 20 jours et donc 12 en 60 jours, c'est peu, c'est vraiment peu. Il faut pas descendre plus bas. Voilà, c'est un appel que je lance, quoi. Voilà. Mais on a réussi à le faire, on l'a fait plutôt de bonne qualité, parce que tout le monde, parce qu'encore une fois, il y avait une vraie émulation, un vrai enthousiasme, c'était un vrai travail collégial, tout le monde est parti dans cette énergie-là, d'avoir envie de le faire. Il y avait encore une fois beaucoup d'amour, je pense que s'il y en a pas, ça marche pas. Et on a réussi à tenir 7 ans et faire 84 épisodes en format série, et le 85e qui sera donc un unitaire de 90 minutes, qui devrait normalement arriver à la fin de l'année, pour boucler cette aventure-là et répondre à pas mal de questions.
Comme un cadeau de Noël, voilà, avant l'heure. On espère en tout cas très vite se retrouver avec Astrid pour cette fin d'aventure. En attendant, ici tout commence, c'est du lundi au vendredi à 18h35 où on te retrouve, mon cher Stéphane. Et puis on te dit à bientôt, on se retrouve très vite.
À très bientôt, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser au téléfilm Le Prochain Voyage qui sera diffusé mercredi sur France 2 avec Thierry Benisti aux manettes. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Un film magnifique sur la fin de vie et ce couple d'octogénaires qui vont aller passer une dernière nuit dans un hôtel, en quelque sorte, pour se dire adieu. C'est tellement beau et c'est tellement émouvant et à la fois tellement triste. J'imagine pour toi, en tout cas réalisateur, t'as dû passer par toutes les émotions en filmant Jean Sorel et évidemment Lynn Renault.
Oui, effectivement, c'était un film qui était très fort, très prenant. Où toute l'équipe, d'ailleurs, sentait qu'on était en train de faire un film important par rapport à ce qu'il allait dire, ce qu'il portait comme conviction et comme volonté d'ouvrir un débat. Mais effectivement, c'est l'émotion qui prend le pas, malgré tout, de cette histoire, de ce couple qui s'aime, qui se sont toujours aimés, qui ont partagé toute une vie et qui ne veulent pas vivre leur dernier moment dans une souffrance inutile, dans un déchirement, dans un poids imposé au reste de leur famille. Donc c'est une décision très consciente, très partisane aussi, puisqu'ils en font presque un acte politique. Et voilà. Et du coup, le film, en le tournant, il y avait une émotion palpable sur le plateau. Et chose étonnante, moi je sais que chaque fois que je, au montage, au mixage, dans toutes les étapes qui ont suivi, j'ai tout le temps été saisi par la force de ce qui se passe à l'écran.
Alors, Lynn Renaud, t'avais confié qu'elle souhaitait raccrocher après. Alors, c'était, on va dire, son avant-dernier film, en quelque sorte, puisqu'elle en a tourné, je crois, un autre depuis où elle est en tournage. Mais en tout cas, Lynn Renaud souhaitait se reposer, souhaitait peut-être arrêter de tourner. Et avec ce film, qu'elle est peut-être certainement un des plus marquants de sa carrière, souhaitait tourner peut-être une page, celui de comédienne.
Alors, c'est vrai que Lynn m'a demandé de faire ce film, d'y penser, de réaliser. Donc, ce serait son dernier film. Pour l'instant, elle n'a pas tourné d'autres. Hein. Donc, voilà. Mais moi, Alors, après, par contre, elle m'a dit, à la fin du tournage, non, on peut en imaginer un autre que j'aimerais beaucoup parce que
on a
une longue complicité avec Lynn. J'ai eu l'honneur de travailler trois fois avec elle sur trois films différents qui parcourent véritablement sa vie. D'abord, le premier, c'était la femme tranquille où elle évoquait l'histoire de sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a fait Belinda et moi, qui était un autre combat de Lynn sur bien avant qu'on en parle de façon large comme aujourd'hui sur la loi du genre et de tout ce que ça vous pouvait dire pour les personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur corps. Et enfin, maintenant, le prochain voyage et ce droit à partir dans la dignité. Et c'est chaque fois des véritables combats qu'elle mène à travers ses films. Donc c'est pour ça que je souhaite, moi, que ce ne soit pas le dernier.
Alors c'est une collaboration aussi étroite avec Laurent Baffy, hein, puisque c'est une adaptation de sa pièce, hein, Les Amants du Lutetia.
Alors oui, c'est voilà, Laurent Baffy avait écrit cette pièce, donc le fait divers est connu, hein, des Amants du Lutetia, c'est une histoire vraie, le couple qui s'est suicidé de cette façon-là à l'hôtel Lutetia en écrivant une lettre, etc. Donc c'est un fait divers réel, voilà, qui avait effectivement inspiré Laurent Baffy pour une pièce. Et du coup, quand on a commencé à travailler, Lynn m'a dit que Laurent l'avait déjà contacté il y a quelques années avec une pièce de théâtre. Et bon, finalement, ça ne s'était pas monté. Mais du coup, moi, je suis effectivement reparti dans la pièce pour partir sur l'adaptation du film.
Merci de nous avoir offert ces quelques minutes parce que tu es en plein tournage du nouveau film des Baudins qui passera sur M6 en Corse en ce moment, qui plus est en ce 9 octobre. Alors, je suis très heureux que tu nous aies trouvé quelques minutes pour nous parler. Et puis, on rappelle aussi, Thierry, que ton dernier film au cinéma Le Prix du Passage vient de sortir aussi en DVD et en VOD. Allez voir cette pépite du cinéma qui n'a pas rencontré le public suffisant, je peux vous dire, en avril, mais sa deuxième vie commence maintenant. Donc on compte sur vous, évidemment, si vous voulez aller découvrir ce magnifique film sur des histoires de migrants et une histoire humaine avant tout, incarnée avec brio avec Alice Izaz et Adam Bessa. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci Alain pour ce long parcours de film en film où on ne se rate jamais. Merci et pour ces belles émissions. À très vite.
Et on est là, voici tout de suite un petit extrait. En tout cas, ça s'appelle Le Prochain Voyage. C'est mercredi à 21h10 sur France 2.
Alors, nous avons réservé une chambre au nom de Renaudy.
Oui, pour une seule nuit, n'est-ce pas?
Une seule, oui, une seule.
C'est bien la 18.
Absolument, madame.
Nous allons vous régler tout de suite.
Ah non, ça peut attendre votre départ.
Non. Nous préférons vous régler tout de suite parce que nous partons très tôt demain matin.
Comme vous voudrez, madame.
Tu te souviens?
Bien sûr, je me souviens. Mais rien n'a vraiment changé.
Par ici, messieurs, dames.
C'est pas trop lourd pour vous?
Pas du tout, madame. La 18. Et voilà votre chambre.
C'est magnifique.
Allez, on continue notre coup de cœur consacré au téléfilm Le Prochain Voyage qui sera diffusé mercredi sur France 2 avec Jean Sorel qui nous rejoint. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui incarne Richard dans ce couple, voilà, d'octogénaires et dans cette histoire tirée notamment de la pièce originale de Laurent Baffy, Les Amants du Lutetia. Jean, ça faisait 18 ans quand vous n'avez pas vu dans un projet télé depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait y aller, en tout cas, qui vous a fait dire oui à Thierry Binisti et à Laurent Baffy?
D'abord lui, parce qu'il était très sympathique. Il parle bien de ce projet, il m'en a parlé très bien. C'est un metteur en scène avec qui on a envie de tourner. C'est pas toujours le cas, je veux dire. Bon, voilà, mais quand un metteur en scène rencontre un comédien, il y a quelque chose qui se passe ou qui se passe pas. Bah, avec lui, c'était formidable. Je sais pas, il a parlé très très bien de ce film. Voilà.
Jean, la rencontre avec Lynn, j'imagine, avec la carrière que vous avez, le nombre de films auxquels vous avez collaboré aujourd'hui, j'imagine qu'avec Lynn, vous vous étiez déjà croisé.
On s'est croisé il y a très 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 longtemps. On a fait une chose à la télévision, qu'on n'a jamais réussi à retrouver. C'est quand même curieux, mais c'était pas peut-être pas un grand film, j'en sais rien, je me souviens plus, parce que j'étais le jeune et elle aussi. Mais on n'a jamais retrouvé cette chose-là.
Et donc, du coup, c'est la deuxième fois que vous tournez ensemble?
Voilà, exactement, deuxième fois. Non, mais ça s'est très bien passé, elle est adorable, Lynn, enfin, elle est pleine de vie, elle est drôle, elle est... Voilà.
Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, la possibilité d'avoir le choix de mourir dans la dignité, de la fin de vie aussi. Et ça sera d'ailleurs suivi mercredi soir d'un débat animé par Julien Bugier. Est-ce qu'en tournant, vous êtes senti un petit peu investi d'une mission tous les deux avec Lynn pour raconter cette histoire des amants du Lutetia?
D'abord, on a tous les deux un âge avancé, si on peut dire. Donc cette histoire de la mort est une chose qui nous préoccupe, enfin qui moi me préoccupe par exemple. C'est quelque chose de... Bon, on ne doit pas éviter d'y penser.
Ouais.
Savoir comment ça va se passer, savoir si on a envie de provoquer cette mort, si on a envie de... Voilà, c'est un vrai problème, c'est difficile enfin.
Ouais, le sujet est compliqué, il est sur la table de tous les politiciens depuis des années et n'avance pas beaucoup malgré tout. Et c'est vrai que voilà, ce film, en tout cas, vous allez certainement vivre un moment qui va vous faire osciller entre émotion et puis compréhension aussi, parce que voilà, ces deux personnes passent à l'acte quand même. Mais c'est vrai que c'est un film qui va certainement, en tout cas, tous vous bouleverser et surtout qui va avoir le mérite aussi de relancer le débat. Et ça, c'est important aussi.
Bah oui, normalement, je crois qu'il va. C'est ça que comme vous disiez, on devrait parler de ce débat. Enfin, officiellement, si on peut dire, à la fin de l'année. Je crois que les politiques veulent s'en mêler, mais c'est très compliqué, parce qu'il y a toute une question de religion qui va intervenir, enfin, est-ce qu'on a le droit de se suicider, il n'y a pas de solution claire, c'est une chose complètement personnelle.
Il n'y a pas de cadre.
Il n'y a pas de cadre. C'est passionnant, enfin, en tout cas.
Exactement, vous allez voir, cette histoire, on a planté le décor un peu avec Thierry il y a quelques minutes, mais voilà, on vous invite en tout cas à découvrir ce très joli film, ça s'appelle Le Prochain Voyage, un film qui va compter très certainement, ça sera mercredi à 21h10 sur France 2. On va suivre Richard et Catherine dans ce magnifique hôtel qu'ils vont retrouver plusieurs décennies après y avoir séjourné au début de leur idylle, et il y a quelque chose effectivement de très beau et un très beau message. Merci en tout cas Jean d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis on vous dit à bientôt, peut-être en tout cas sur un autre projet.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci de m'avoir. À bientôt. Et merci encore.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient. Et puis alors, ça, c'est un de nos personnages préférés. Je crois qu'on a été la première radio à être sur le coup dès qu'elle est arrivée. C'est la mère de Georges. Et oui, Mona Caron, qu'on adore, Catherine Benguigui, qui est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Ça va bien?
Super bien, en pleine forme.
Donc là, en vrai, en plus, on s'était eu au téléphone lors de ton arrivée dans Demain nous appartient. J'ose imaginer que c'était vraiment pas prévu pour durer aussi longtemps cette histoire, dis-moi.
Ah bah moi, j'étais castée pour être guest en fait. Et maintenant, ça va faire 3 ans là que je joue Mona et que je suis ravie.
Et tes spectateurs se sont attachés, mais tellement.
Oui, c'est vrai. Hein. Là, j'ai un retour du public incroyable. Quoi. C'est dingue. Quoi. Je ne m'y attendais pas, quoi, comme on dit.
Comment tu vis ça? Comment tu l'as composé, Mona? Parce que c'est vrai que tu l'as rendue tellement, des fois, attachante,
ouais,
même.
Ouais,
hein.
Ouais. Bah, écoute, naturellement, quoi. Je sais pas. Par rapport à ce que je lisais, j'ai apporté un peu de fantaisie, un peu de ma personnalité. Quoi, hein. Moi, j'aime bien sortir des punchlines. Je suis un peu comme ça, un peu rentre-dedans. Donc, j'ai un peu une partie de moi-même dans Mona.
Tu improvises un peu de temps en temps quand même, non?
Oui, j'improvise. Je change un peu les textes. Pas tout le temps. Hein. Des fois, c'est très bien écrit. J'ai pas besoin de changer une virgule. Mais quand je peux, je me fais plaisir. Je rajoute une petite vanne. Voilà.
Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Je t'avoue que j'en ai pleuré de rire. C'est la scène de l'exposition au Spoon.
Ah.
Avec ce portrait.
Voilà, oui,
que tu croyais que c'était toi. Et là, franchement, mais c'était juste jouissif, quoi.
Mais en plus, moi, je me suis fait avoir parce que j'ai lu le texte. Au début, je dis, oh, c'est bien, elle va acheter une œuvre d'art et tout. Et je m'attendais pas du tout, comme les téléspectateurs, à la chute. Et quand je vois le truc, en fait, c'est un vieux monsieur en EHPAD. Mais j'ai dit, mais c'est du génie, quoi. C'était génial. Vraiment, les auteurs, merci, quoi.
Ah, mais ils sont inspirés, par Mona. Ils sont très inspirés.
Oui, c'est vrai qu'ils sont inspirés. Là, j'ai rencontré une des autrices hier et ils adorent, me mettre dans des embrouilles ou dans des trucs un peu, inattendus, quoi.
Elle a une relation particulière avec Nathan aussi. C'est un peu son second fils.
Ouais, exactement. C'est un peu, elle peut un peu plus le modeler que George parce qu'il est un peu plus jeune. Et puis, c'est son côté mère poule. Elle le sort toujours des embrouilles. Il est très attachant aussi, quoi. Donc, voilà.
Oui. Et puis, comme le comédien d'ailleurs qui l'incarne, Adair, qu'on embrasse très fort.
Que je t'embrasse très fort, frérot.
Ah oui, vous appelez comment sur le tournage comme ça, frérot?
Je les fais rire les jeunes parce que je prends des trucs, frérot, chacal, la famille, le sang.
Le daron, la daronne.
Voilà, exactement. Ah,
c'est excellent ça. Et puis après, il y a eu des scènes vraiment très drôles aussi, évidemment, avec Georges, avec Maïel et la Jaoui qui est franchement. Ah, oui. Vous avez eu des scènes tous les deux qui étaient anthologiques.
Oui, c'est vrai, ça fait longtemps là qu'on n'a pas tourné ensemble, donc j'espère que les auteurs vont nous reconcocter un peu des petites séquences. Il y avait tout le passage où il était à l'hôpital, où j'ai amené à manger, tout ça, c'était très très drôle, où je dormais sur le fauteuil à côté de son lit. C'était vraiment super marrant, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, si tu avais un appel à lancer là aux auteurs, ou qu'est-ce que tu aimerais que Mona fasse?
J'aimerais bien qu'elle fasse partie d'une enquête, ou qu'elle soit dans une arche, enfin pas dramatique, mais où il y ait...
Dans un mauvais coup.
Voilà, qu'elle mène l'enquête, ou qu'elle fasse un truc un peu, un mauvais coup, quoi. J'aimerais bien qu'elle soit là-dedans, quoi, ou je sais pas, qu'elle vende des trucs sous le manteau, ou... J'aimerais qu'elle soit au cœur d'une intrigue, en fait.
Et qu'avec son air de pas y couper, évidemment, et soit insoupçonnable, quoi.
Voilà, exactement, c'est sa mauvaise foi légendaire, qu'elle fasse tourner tout le monde un peu en bourrique, donc ça, j'aimerais bien. Elle est peut-être un peu du côté policier, enfin voilà, j'aimerais qu'elle soit un peu plus active.
Il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre, ou pas? Est-ce qu'il y a une scène à un moment donné où tu te diras dans 10 ans, celle-là, je m'en souviens encore?
Bah, c'est tout au début, là, quand je jouais de l'hélicon, quoi, c'était quand même... C'était quand même hallucinant, quoi. Je suis chez moi. Non, je vais m'incruster chez Victoire et elle arrive et moi je suis là en train de jouer. Enfin, c'était très drôle. Tous ces moments-là, c'était drôle. Les
passages jusque dans l'appartement à côté.
Les passages où je gardais Céleste aussi. J'ai bien aimé tous ces moments-là. Et puis, les moments de comédie. J'ai beaucoup aimé tourner avec Catherine Allégret. Aussi au début, c'est un bon duo de mamie là. C'était vraiment très très drôle, la guerre des belles-mères.
C'était un peu ça. Et puis après, il y a aussi plein d'autres projets. Il y a eu Alibi 2 que vous pouvez voir en VOD et en DVD. Là, on a vraiment l'impression que tu t'amuses aussi.
Ah bah Alibi, c'était pour moi un tournage paradisiaque, quoi. C'était Déjà, je tournais avec Philippe Lachaud. C'est comme si on tournait en famille. Ça a un lien avec DNA parce que c'est sa maman Huguette qui m'a choisi parce qu'il trouvait pas personne pour faire le personnage de Dominique et elle a dit ah mais si c'est elle veut que ce soit elle et tout, donc c'est grâce à Huguette que je suis dans Alibi. Et puis le tournage, on a pas mal attendu et tout, donc j'ai beaucoup discuté avec Didier Bourdon, Nathalie Baye, et j'ai rencontré Ariel Dombal avec qui j'ai pas mal tourné avant, et c'était pour moi une parenthèse enchantée, quoi. Puis plus le succès du film, là, c'est rare, quoi.
Plus gros succès, 2023.
C'était au-delà de ses espérances, quoi. C'était dingue, quoi. Voilà.
Tes projets pour 2024?
Alors, moi, j'aimerais bien faire du cinéma encore. Donc, là, pour le moment, j'ai pas encore de projet. J'ai la série avec Jarry qui s'appelle Joyeuse Pompe Funèbre. Donc, on a tourné le pilote cet été. On attend l'avis de France 2. Ce sera sur France Télévisions. Et si ça marche, ce sera décliné en série. Donc voilà, ça s'est déjà tourné. Et pour le moment, je fais un appel, un appel d'offres.
Catherine Benguigui dispo. Voilà, n'hésitez pas. Entre deux journées de Mona, eh bien, elle peut faire plein d'autres choses.
J'ai le temps de faire autre chose. Je suis multitâche.
On n'en doute pas. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, d'avoir été avec nous. On t'embrasse très fort. Et puis, on te dit à très bientôt.
Je te dis à bientôt. Merci.
On marque une pause. Dans un instant, notre spécial, la fiancée du poète Esteban Tomagui, Yolande Moreau, nous rejoignent. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Sur une planche à voile, c'est curieux quand j'y pense. Il faut y voir peut-être une folle appétence, un désir insatiable pour les planches. Les années ont passé, j'ai dédié ma jeunesse à des planches nimbées de charmes inconnus. Je me l'étais juré et j'ai tenu une promesse. La scène aura été ma planche de salut. J'ai passé ma vie sur les planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-manche, voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle j'avais déposé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Si l'on m'a savonné la planche à mes débuts, ça n'a pas entamé mon envie d'en découdre. Les planches m'ont fasciné, sitôt monté dessus, j'ai voulu les brûler. À l'instar de la foudre, j'ai passé ma vie sur des planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-manche, voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle j'avais déposé. C'est qu'avant de quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Salles et clubs enfermés, tous les théâtres clos. On a failli flancher, abdiquer pour de bon. Comme d'autres, on a planché, reclus dans nos labos. Puis les planches ont résonné sous nos pas de nouveau. Je passerai ma vie sur des planches. C'est une vocation, c'est inné. Tant pis si la vie me débranche, façon Molière en plein métier. Je passerai ma vie sur des planches.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Salut, moi c'est Esteban, et bon, à peu près chaque semaine, hein, pas toutes, mais j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé. Bisous.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre notre spécial La fiancée du poète. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, nouveau film de Yolande Moreau qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Yolande, merci d'être là.
Bonjour.
Et qui sera rejointe d'ici quelques instants par Tomagui et Esteban qui vont venir nous rejoindre aussi, qui jouent dans le film. Alors le film s'appelle La fiancée du poète. Ça aurait pu s'appeler Les faussaires bienheureux aussi. C'est une jolie comédie. On y suit l'histoire d'une femme qui hérite d'une maison à la campagne et puis qui va y faire de la colocation avec de joyeux faussaires où on rigole bien aussi. Et le premier mot qui m'est venu à l'idée en voyant le film, c'est douceur. Douceur de vivre un peu.
Il y a de la douceur, il y a en tout cas... moi, j'irais une envie de rêver pour chacun, parce que c'est des faussaires. Moi, j'ai faussaires, oui, mais en quoi? En quoi faussaires? Parce qu'ils ont envie de rêver un peu plus dans leur vie. Pour moi, ce qui est important, de remettre l'amour, l'art au centre, plutôt que d'aller ou de faire ce qu'on nous dit de faire, comme dit Souchon.
Où est venue l'idée, Yolande? Comment est venue cette idée de ce scénario et de ce film pour vous?
Bah, l'idée, justement, c'est d'envoyer une photo d'un faussaire, c'est Shaun Greenhalgh, qui dans la banlieue de Londres. Et c'était un gros monsieur entouré de ses parents. Et puis on voyait à côté des photos, des choses qu'il avait faites en peinture ou en sculpture, absolument d'une finesse inouïe. Et à moi, cette photo me faisait penser aux des chiens, parce que c'est les parents qui vendaient les œuvres. Et je dis, mais c'est marrant quand même d'avoir cet or au bout des doigts. On le soupçonnerait pas ça en le voyant. Chacun doit porter en soi des envies de beau ou de des envies de rêve. C'est ça que nous apporte l'art et l'amour aussi, et qui me semble primordial dans la vie. Et je trouve que dans l'époque qu'on vit actuellement, ça devient dur de rêver, ça devient dur de se projeter, ça devient dur d'oser prendre des risques. C'est pour ça, à un moment donné, je voulais appeler mon scénario, moi, pas comme vous dites, mais j'ai envie de dire, même au milieu des ruines, il y avait cette photo que tout le monde a connue du pianiste qui jouait dans les ruines en Syrie, dans les bombardements, et qui nous interpellait tous. C'est-à-dire, je joue du piano, une œuvre, voilà, dans tout ce qui est cassé. Eh bien, on continue, on cherche ce qui est beau, on cherche l'amour, on n'a pas peur. Mon film raconte ça.
Vous êtes entouré de comédiens absolument fantastiques. Alors, je citais évidemment Thomas Guy et Esteban, mais alors évidemment, parce qu'on va laisser la surprise aux spectateurs, mais Grégory Gadebois, avec une allure qui, moi, quand j'étais à la projection et que sa première apparition à l'écran, tout le monde a rigolé, évidemment, parce que alors là, Grégory Gadebois, vous allez le voir comme vous l'avez jamais vu.
Oui, 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 tout à fait. Grégory Gadebois, c'est un immense comédien. C'est quelqu'un, c'est le premier que je voulais absolument. Puis il a accepté tout de suite, c'est pas mal. Après, moi, je suis entourée d'hommes. Hein, dans ce film, je me suis fait vraiment plaisir. Hein. je suis une vieille fiancée. Entouré d'hommes.
Et c'est ce que vous disiez à la projection. Vous avez la question de savoir pourquoi, par exemple, vous êtes réalisatrice et vous avez le rôle principal. Vous avez dit, bah, pourquoi je me ferais pas plaisir, quand même. Bah oui, tant qu'à faire.
Oui, c'était pas ce que j'avais cherché dans les deux autres les films que j'ai fait, sauf quand la mer monte, c'était quand même un peu mon histoire. Mais au moment de jouer, j'avais tellement eu de plaisir à l'écrire que je me sens pas capable. Et en fait, c'est tellement proche de moi que ça me faisait peur. Dans le second, je fais une apparition. Et ici, j'en avais vraiment envie. Je me dis, je me suis fait plaisir avec ce personnage de Mireille, qui est aussi quelqu'un de manipulateur, qui est quelqu'un de... J'en avais envie, oui.
Il y a un personnage important dans ce film, c'est la maison.
Oui.
C'est un des personnages principaux, oui, au bord de la Meuse.
Oui, on a mis beaucoup de temps pour la trouver. On l'a trouvée, c'est une maison. Moi, j'en ai connu plein, comme je suis belge. Hein. Et de long de la Meuse, dans le temps, il y avait plein de maisons, d'anciennes maisons de maître, au bord de la Meuse, qui étaient vendues pour des bouchées de pain, parce que ça ne correspondait plus au confort actuel. Plafond très haut, très difficile à chauffer, compliqué, quoi. Pas du tout adapté. Depuis lors, elles ont quand même été vendues. Et c'est les gens qui ont du pognon qui ont pu l'acheter. Celle-là est encore dans son jus. Et elle était de l'autre côté de la frontière, donc en France, à Monthermé, près de Charleville-Mézières. Et on a mis du temps pour la trouver. Au départ, je me dis, elle est presque trop grande avec ses petites tours. Elle fait... Mais à l'intérieur, complètement dans son jus, le propriétaire actuel, c'est sa mère qui y vivait. Et là, il va la transformer pour en faire des chambres d'hôtes. Je pense que ça va être très chic. Mais là, c'était...
Il y aura une chambre à chaque nom des protagonistes du film, tant qu'à faire. Hein.
Ah, ce serait bien.
Ce serait un bel hommage, en tout cas. Yolande, je vais poser la question à Thomas, évidemment, et Esteban dans quelques instants. Mais vous êtes comment en tant que réalisatrice? Et vous êtes quelqu'un de très pointu sur l'écriture, où il faut suivre scrupuleusement, ou des fois vous laissez tourner la caméra pour capter des moments de grâce que les comédiens peuvent vous offrir avec quelques moments d'impro? Comment ça se passe? Comment vous êtes, vous, sur un plateau?
Moi, je pense que je suis assez cool. En plus, comme je joue moi-même, je pense que l'important, c'est bien choisir les comédiens. Alors après, je passe beaucoup de temps à l'écriture. Il y a des choses auxquelles je tiens. Mais il y a des ajouts qui sont formidables. Notamment, Esteban, il aime bien. Il aime bien en rajouter. Des fois, il faut le freiner. Des fois, c'est formidable. Voilà. Donc, il a trouvé des choses très, très bien, très drôles.
On va lui demander où c'est qu'il a chopé ce franglais là dans un instant d'ailleurs, hein, parce que ce mélange de français et d'anglais qu'il nous a offert dans le film, c'est absolument divin, il nous fait beaucoup rire.
parce qu'il se fait passer pour un Américain quand même. Donc ça c'est écrit, et en même temps faire attention, pas en mettre trop, parce que sinon il faut des traductions en dessous. Donc ça j'ai pas envie. Et comme il parle très très bien l'anglais, il se débrouille très bien ce jeu-là.
Il y a une scène qui vous a particulièrement plu, que ce soit au niveau du tournage ou après une fois au montage, c'est dit ah oui celle-là, elle rend encore mieux que ce que je pensais.
Ben, moi j'aime beaucoup le retour du mariage, j'adore le moment, le passage aussi où, je sais pas, l'explication avec le cow-boy et après il s'en va avec sa guitare dans le chemin. Et les herbes folles de la maison, là, on a tout laissé pousser pendant un an pour que ce soit un peu sauvage. Et elle parle à son cerf avec une poésie de André-Pierre de Mondiargue. Ouais.
Oui, le cerf est aussi important hein, comme personnage. Hein.
Le cerf est important. Alors, on le voit, il a marqué son enfance. Elle le retrouve des années après. Ça veut dire que c'est un personnage qui l'a fait rêver et qui l'a sans doute à qui elle a parlé. Et puis elle le retrouve des années après. Comme elle dit à un des étudiants qu'elle sert, là, elle me dit « Moi, j'ai un cerf, il est en marbre, mais il a une âme. »
En tout cas, vous allez vivre un joli moment. Allez voir La fiancée du poète au cinéma. Ça sort dans les salles, justement, ce mercredi. Esteban et Thomas Guy vont nous rejoindre aussi dans un instant pour continuer à en parler. Yolande, on termine par vos projets. Est-ce que une fois que La fiancée du poète va être sortie, et qu'est-ce qui vous attend en tant que comédienne, peut-être aussi, ou un prochain film? Même si vous avez mis quelques années quand même, hein, depuis le précédent.
J'ai un petit peu peur de la retomber parce que j'avais fait en sorte, après Henri, je connaissais ça, parce qu'on avait eu du mal à lâcher quand la mer monte. Donc je sais ça, l'après, un peu de dépression. Et après le deuxième film, j'ai tout de suite été faire un film comme comédienne en Chine. C'était bien, on passait à autre chose. Ici, je sais pas trop, j'ai un peu aussi envie de me poser, de prendre un peu plus soin de ma santé. Voilà, j'ai le projet quand même que je reprends le spectacle de Prévert avec les têtes raides. On continue quelques fois par mois. Et j'aimerais beaucoup me remettre à l'écriture, mais je sais que c'est long pour savoir ce que j'ai envie de faire, d'écrire, et de commencer en fait. Une fois que j'ai commencé, là c'est tous les jours. Et puis j'y pense la nuit à des choses, je me réveille le matin, je vais vite la noter sinon j'ai oublié.
Bon, ça fourmille encore, je vois en tout cas, pour notre plus grand plaisir, Yolande Moreau, réalisatrice et comédienne principale, justement La fiancée du poète, mercredi dans les salles. Et Thomas Guy et Esteban vont s'installer à nos côtés d'ici quelques instants. On va écouter la bande-annonce. Merci beaucoup Yolande et à bientôt.
Merci à vous.
King of rock and roll.
Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme.
Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît.
C'est vrai que t'as fait de la prison?
C'est vrai. T'as vu où t'en es?
Bonne niche, avec une licence de lettres en poche.
Toi, t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud.
J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir.
Mais c'est pas André Pierre, ton poète?
Elle nous a dit qu'il était mort.
Mais il est pas mort, puisque c'est moi.
Une bière, cow-boy?
Des losers, des minables, sur ma route, y'a que ça, des types à la dérive.
T'as mis le temps.
Un peu comme une famille. En plus subversif.
Allez, on continue notre spécial La fiancée du poète. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, qui sera donc mercredi dans les salles. Et on continue avec Esteban et Thomas Guy qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Hello, merci de nous recevoir pour cette deuxième partie d'interview.
Bonjour, bonjour.
Allez, beaucoup plus soft, hein, Thomas, t'as vu.
Moi, c'était Esteban. Et en deuxième, on a entendu la voix suave de Thomas Guy.
Voilà, exactement. Alors Esteban, je te l'ai dit une fois, quand on a fait Irréductible ensemble, le film de Jérôme Commandeur, j'ai dit tu reviens quand tu veux dans Chute, on écoute la télé. Ben là, c'est carrément lui qui m'a appelé, il m'a dit je veux faire encore Chute, on écoute la télé pour La fiancée du poète, ce film de Yolande Moreau. Et franchement, c'est toujours un plaisir de vous avoir tous les deux ici pour parler de ce film où tu joues Elvis. On va revenir sur cet anglais improbable, Esteban. Bouge pas, tu vas pas y couper. Et Thomas, toi, c'est Picasso. Hein, c'est le surnom du personnage. Puisqu'en fait, on y raconte, on a planté le décor avec Yolande, mais on y raconte l'histoire d'une femme qui hérite d'une maison et qui va se retrouver à faire de la colocation avec ce qu'on peut appeler des fossoyeurs. Enfin, des joyeux fossoyeurs. C'est une joyeuse maison, en fait. Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans le rôle, tous les deux? Esteban.
Moi, ce qui m'a plu, déjà, c'est la première fois que je faisais un rôle musical. Enfin, j'avais déjà fait un peu des trucs où je devais chantonner. Mais là, c'est genre guitare et musique. Et vu que j'ai un groupe de musique qui s'appelle les Naive Nubiters, et dans ce groupe, moi, j'ai toujours joué de la guitare. Et mes potes de la musique ne m'ont jamais laissé jouer de la guitare. Ils m'ont toujours dit, non, arrête, tu sais pas bien suivre un rythme. Alors, j'ai jamais pu en jouer sur scène, même si parfois, quand même, il y a des petites guitares que j'enregistre et qu'on garde dans les albums. Mais sur scène, c'était niet. Esteban, non, tu ne joueras pas de la guitare. Et ben là, pof, j'aurais cloué le bec et je joue de la guitare dans le film de Yolande Moreau. Donc déjà, j'ai dit waouh, rien que pour ça, c'est énormous.
Et ça veut dire que Yolande Moreau a réparé une injustice en quelque sorte.
Ouais. Et je crois qu'elle répare pas mal d'injustices dans ce film parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est un petit peu fossoyeur, faussaire, comme tu disais, qu'on n'a pas le droit d'exister, de s'exprimer et...
De chanter.
Ouais, de chanter et d'arnaquer un petit peu les gens. Ça va, on n'est pas tous des imposteurs, même si on l'est un peu tous au final.
Alors c'est celui peut-être avec sa tête d'ange qu'on en aurait peut-être le moins pensé, justement. Picasso, Thomas, comment tu t'es appréhendé ce rôle? Qu'est-ce qui t'a plu aussi dans ce rôle?
Moi, ce qui m'a plu surtout au départ, c'est de pouvoir travailler avec Yolande Moreau, parce que j'adore qui elle est, la personne qu'elle est, son cinéma en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice. J'ai appris à la découvrir après en tant que réalisatrice.
On va revenir justement comment elle est en tant que réalisatrice juste après. Prépare ta réponse, Esteban.
Mais ce que j'ai aimé, c'est ce côté très simple sur lequel elle m'a conduit, c'est-à-dire la douceur, la simplicité, l'empathie. C'était vraiment les mots qui revenaient le plus. Et c'est vrai que c'était très agréable en fait de se laisser porter par toute cette équipe et tous ces acteurs avec Yolande en tête.
Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai vu le film, la première chose que je me suis dit et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est douceur. C'est vrai que on cherche pas le rythme à tout prix, on cherche pas. C'est vraiment un film qui se laisse regarder tout en douceur et qui fait du bien. On passe un bon moment et ça fait du bien de temps en temps d'être dans la douceur.
Mais c'est vrai, en fait, à la fin du tournage, et ce qui est aussi d'ailleurs dans la fin du film, on est sur cette péniche, et je trouvais qu'en fait, à la fin du tournage, d'avoir fait ces scènes, c'était un peu les dernières qu'on a tournées, ça illustrait bien un peu ce mood dans lequel on a été, de se laisser porter, mais voilà, quand même un engin qui sait où il va, mais qui va tout cool de façon assez contemplative et un petit peu dans la brume, mais en fait, il avance quand même, et je trouvais que c'était un peu à l'image du film.
Yolande Moreau, elle est comment quand elle est réalisatrice? On la connaît en tant que comédienne évidemment à l'écran, mais quand elle est réalisatrice?
Déjà, elle est un poil moins drôle quand même, il faut le dire. Non, mais elle est gentille, mais elle est quand même un peu moins marrante, c'est-à-dire il faut taffer quand même, quoi. Et si tu taffes pas, par exemple, elle nous engueulait quand on répétait pas assez, elle nous engueulait gentiment hein, quand même, quand on répétait pas assez la dernière chanson qu'on chante dans le film qu'elle a écrite. Bon, c'est normal, elle y tenait beaucoup. Et en même temps, elle a une forme de... Elle sait vraiment ce qu'elle veut, donc c'est-à-dire tu peux pas te faire... un petit mot en plus ou machin, et en même temps elle laisse aller les folies quand il faut, donc c'est assez double et c'est assez assez agréable de bosser avec elle parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre au final. Non, Thomas,
finalement elle est exactement comme je l'avais imaginé, et donc ça c'était très agréable de se rendre compte que elle fait pas semblant et que c'est quelqu'un d'éminemment très sympathique. Et c'est vrai qu'elle était un peu sur tous les fronts.
Surtout qu'elle joue le rôle principal en plus.
Ouais, elle joue le rôle principal, mais du coup, elle déléguait beaucoup tout en restant dans la maîtrise et tout en sachant ce qu'elle voulait pour la prise. C'est-à-dire que c'était dès qu'elle avait ce qu'elle voulait, elle s'acharnait pas à faire d'autres prises, à en faire encore une. C'est bon, on a ce qu'il faut en fait. Et donc ça prouve qu'elle était assez sûre et assez en maîtrise de ce qu'elle faisait.
Alors, toi, Café Irréductible, qui est quand même maintenant le roi de l'Alpe d'Huez, hein, où t'as obtenu le Grand Prix avec Jérôme Commandeur.
C'est lui qui l'a obtenu, pas moi, hein, mais bon.
Oui, mais enfin, c'est un prix d'équipe.
J'aime bien ton utilisation du « on ». C'est comme t'as dit « on a fait Irréductible ». Je me suis dit « tiens, il n'était pas dans le film ». Mais en fait, non, t'as fait l'interview d'Irréductible et c'est en partie « faire Irréductible ». Donc, « on », l'usage du « on » est super bien. Tu devrais en prendre de la graine, Thomas Guy, qui ramène tout le temps tout à toi.
Bon, par contre, tu vas pas y couper, puisque vous remarquerez, en allant voir le film évidemment mercredi dans les salles, que Esteban manie parfaitement le franglais.
Ouais, c'est vrai, j'ai un...
Ce mélange de français et d'anglais, franchement.
Parce que je joue en fait le rôle d'une sorte de...
D'ours. qui est dans une cabane.
Voilà, qui est dans une cabane, qui fait l'américain, mais en fait, il est plutôt turc qu'américain, mais encore, on n'est même pas vraiment sûr
qu'il est turc.
Qu'il soit turc, parce que c'est juste une carte de bus turc qui montre, donc son identité réelle, on la comprend pas trop.
En tout cas, il y a des moments de poésie, il y a des moments de comédie, il y a vraiment beaucoup de beaux moments. Puis il y a vraiment cette maison aussi, est quand même un personnage à part entière du film, a été votre décor principal, mine de rien, pendant plusieurs semaines.
Oui, bah c'est quasiment là où on a tourné et tout se passait là-bas en fait, le tournage, tout était sur place. Et c'est vrai que il y a quelque chose dans ce décor qui est à la fois très beau, parce qu'on est au bord de la Meuse, en face des forêts et tout ça. Et en même temps, c'est vrai qu'au début, on la voit, elle est assez imposante, cette maison. Yolande disait qu'elle voulait que ce soit presque angoissant. Et c'est vrai qu'on a un peu cette sensation-là.
C'est vrai ce que tu dis, qu'au final, ce décor, c'est pas tant un décor, c'est un personnage, limite. Et en fait, ça a été traité de cette manière dans le film, parce que, par exemple, rien que pour sonoriser en fait la maison, on va pas lui mettre un micro-cravate ou quoi, l'équipe a jamais utilisé de micro-cravate sur les acteurs, et c'était tout le temps, on était tout le temps perché. Alors bon, du coup, il y a quelques répliques qui ont sauté, hein, forcément. Moi, j'étais là tout le temps, non mais mettez-nous des cravates, il y a plein de trucs qu'on va louper. Mais en fait, non, parce que la perche permet de capter aussi l'ambiance en fait de chaque pièce où on est, et vu que chaque personnage occupe une pièce différente, dans chaque pièce se jouent des choses différentes.
Vu qu'on rappelle, c'est une colocation.
Oui, voilà, c'est une coloc où dans chaque pièce il y a un peu un acteur différent, et quand je dis acteur, c'est aussi un acteur dans le film, puisqu'on joue tous un peu des rôles et on est tous un peu des faussaires. La perche, ça permet de donner une vraie identité, de donner un vrai souffle à l'autre acteur qui nous englobe tous, qui est cette maison, quoi. Donc je trouve c'est hyper juste ce que tu as dit, et c'est vrai que ça lui a bien donné vie.
Vos projets pour cette fin 2023 et début 2024, qu'est-ce qui vous attend ? Cinéma, théâtre, télévision ? Thomas, est-ce que tu as des projets ?
Alors moi, plus théâtre, je suis dans un collectif de jeunes comédiens avec on a joué une dystopie écologique qui s'appelle Aube, qui va se reprendre bientôt, je sais pas encore où. Mais j'ai aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rembobiner, que je vais lancer, et il y a peut-être aussi Esteban qui va jouer dedans. Donc voilà.
C'est vrai, j'ai essayé de gratter un rôle dans sa pièce. Quant à moi, si t'avais fini, Thomas, je sais pas.
Oui, j'ai fini.
D'accord, il dit qu'il a fini, hein. Moi, il y a donc une semaine après la sortie de La fiancée du poète, pardon, il y a un film d'animation qui sort, qui s'appelle Linda veut du poulet, le 18 octobre, qui a gagné le Grand Prix à Annecy, le festival d'animation, et que je recommande, mais même si je l'ai pas encore vu.
Tu portes chance au film, toi, dis donc.
Ah, je sais pas, on verra bien. Et une série télé pour TMC qui s'appelle Benoît Gênant.
Avec Artus.
Avec Artus et Ornella Fleury, réalisé par Éric Lavenne. Et voilà, je crois que ça va être diffusé pareil.
Bientôt.
Bientôt.
Tu reviendras nous en parler, justement.
Bien sûr, oui. Et il y a aussi le prochain album des Naive New Beaters qui va sortir en 2024, mais un titre qui va sortir en octobre qui s'appellera Dancing.
Merci beaucoup Thomas, merci Esteban. La fiancée du poète, ça sort mercredi au cinéma. C'est le film à ne pas rater qui va vous faire du bien. Et puis j'ai bien compris que puisque vous n'allez pas vous lasser d'Esteban, vous retrouverez sa voix dans une semaine, le 18 octobre au cinéma, dans le film d'animation qui s'appelle
Linda veut du poulet.
Merci à tous les deux.
Ciao, bye.
Merci à vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir l'équipe du film Drone Game qui arrive sur Prime Video, un film qui a été primé meilleur film au festival de la fiction télé de La Rochelle. Nous aurons également le plaisir de recevoir vos héros de séries quotidiennes. On va vous laisser évidemment des surprises, mais notamment Ingrid Chauvin sera avec nous. Oui, nous aurons également le plaisir de recevoir Aurélie Ponce pour Ici tout commence et évoquer ses projets. Alors, vivement lundi prochain.
Le rendez-vous des stars, C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.